Bonjour à tous, ici Bordeaux-Seine et vous êtes avec Tiphaine. Bonjour à tous et bienvenue dans Bordeaux-Seine, l'émission qui vous propose de découvrir le théâtre au travers de ceux qui en ont fait leur passion. Alors, au programme d'aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte de Dostoïevski avec la pièce « Le temps que le cœur cesse » qui est actuellement représentée au Théâtre du Grand Rond de Toulouse. Avis aux Toulousains. Mais avant cela, je vous propose de découvrir « La Dame de la Mer » d'Henrik Ibsen. C'est parti. Henrik Ibsen, c'est un dramaturge qui est né en 1826 et meurt en 1906. Il écrit La Dame de la Mer en 1888, histoire qui raconte le destin d'Elisa, une femme mariée au docteur Wangel. Celle-ci apprend qu'un ancien amant est de retour et se retrouve torturée entre lui et son actuel mari. La pièce nous plonge dans les tourments de l'héroïne, alors que son ancien amant lui demande de partir avec lui, la faisant peu à peu basculer dans la folie. Pour vous donner envie d'en découvrir plus, je vous propose un extrait en compagnie de Chloé Cardino. Bonne écoute! Te souviens-tu d'une fin d'automne où un grand voilier américain vint réparer une avarie à Schleswig-Holstein?
Je m'en souviens très bien. C'est le voilier dont on a trouvé un matin le capitaine assassiné dans sa cabine. J'ai moi-même été appelée pour l'autopsie.
Oui, je m'en souviens.
Le meurtre a été commis par le second du navire.
Cela n'a pas été établi, il n'y a pas eu de preuves.
N'importe, le doute n'est pas permis. Pourquoi se serait-il noyé à la suite du crime?
Il ne s'est pas noyé. Il a pris un bateau faisant voile vers le nord.
Comment sais-tu cela?
C'est que, vois-tu, Wangel, ce second, est l'homme à qui j'ai été fiancée.
Que dis-tu? Serait-ce possible?
C'est vrai, j'ai été fiancée à cet homme.
Mais, au nom de Dieu, Elida, qu'est-ce qui a pu te pousser à ce coup de tête? Un homme de cette espèce, un inconnu? Comment s'appelait-il donc?
Il portait à cette époque le nom de Freeman. Plus tard, ses lettres étaient signées Alfred Johnson.
Que sais-tu encore sur son compte?
Rien, si ce n'est qu'il s'était engagé de bonne heure et qu'il avait navigué au loin.
C'est tout?
Oui, nous ne parlions jamais de cela.
De quoi parliez-vous donc?
Le plus souvent, nous parlions de la mer.
Ah, de la mer?
Du calme et de la tempête, des nuits sombres sur la mer, et puis aussi des flots qui miroitent au soleil. Mais surtout, nous parlions des baleines et des phoques, et des morses qui se chauffent aux rayons de midi sur les côtes du Nord. Nous parlions encore des aigles et des mouettes et de ces autres oiseaux que tu connais. Et pendant qu'il parlait, c'est étrange, dit. Je croyais découvrir entre cet homme et ces êtres, bêtes, oiseaux de mer, une bizarre parenté.
Et toi-même?
Moi aussi, je me sentais en parenté avec eux tous.
Oui, oui. Et c'est ainsi que tu t'es fiancée à lui?
Oui, je lui ai obéi.
Obéi? Tu n'avais donc pas de volonté?
Non, pas tant qu'il était là. Oh, ensuite, je ne comprenais plus rien à ce qui s'était passé en moi.
Vous vous êtes souvent rencontrés?
Pas très souvent. Il est venu un jour au phare. C'est alors que j'ai fait sa connaissance. Ensuite, nous nous sommes rencontrés de rare en rare, jusqu'au meurtre du capitaine, jusqu'au jour de son départ.
Continue, je t'en prie. Je t'écoute.
C'était au point du jour. Je reçus un billet de lui. Il me demandait de venir à la pointe de Blathammer, tu sais, entre Schleswig-Holstein et le phare.
Oui, oui, je sais.
Je devais y aller en toute hâte, il avait à me parler.
Et tu y es allée?
Oui, je ne pouvais faire autrement. Alors, il me raconta qu'il avait poignardé le capitaine la nuit même.
Il te l'a avoué?
Oui, mais il n'avait fait que justice, me dit-il.
Justice? Et pourquoi ce meurtre?
Il ne voulut pas me le dire, par égard pour moi, ce qu'il m'a assuré.
Et tu le crus sur parole?
Oui, je n'ai pas eu l'ombre d'un doute. Quoi qu'il en soit, il n'avait plus qu'à partir. Alors au moment des adieux... Non, tu ne devineras jamais ce qu'il imagina.
Mais voyons, dis-le!
Il tira de sa poche un anneau à clé, puis il ôta une bague de son doigt. Il me demanda également une petite bague que je portais au mien. Il passa l'anneau au travers des deux bagues et me déclara que nous allions ensemble nous unir à la mer.
Vous unir?
Oui. En disant cela, il lança dans la mer aussi loin qu'il put l'anneau avec les bagues.
Et toi, Elida, tu te prêtas à cela?
Y penses-tu? Je n'eus pas un instant l'idée de m'y opposer. Il partit enfin, Dieu merci.
Et ensuite?
Ensuite, tu penses bien que je ne tardais pas à me ressaisir. Tout ce qu'il y avait là d'absurde et de fou m'a paru bien clairement.
Cet homme a exercé un grand empire sur toi, Elida.
Oh oui, il me fait encore peur.
Il ne faut plus y penser. Jamais. Promets-le-moi, ma chère, ma bien-aimée Elida. Nous allons désormais changer de régime. Il te faut un air plus vif que celui des fjords. Il te faut l'air salin, l'air régénérateur de la mer. Qu'en dis-tu ?
Oh, ne me parle pas de cela, je t'en prie. À quoi bon ? Cela n'aiderait à rien. Je le sens. Jamais je ne serai débarrassée de cette obsession. Elle me poursuivra partout où j'irai.
Débarrassée de quoi ? Que veux-tu dire, ma chérie ?
De cette épouvante, de cet inexplicable pouvoir auquel mon âme reste encore soumise.
Mais tu en es débarrassée depuis longtemps. Du jour où tu as rompu avec lui, ce fut fini, bien fini.
Non, ce n'est pas fini.
Pas fini ?
Non, Vangel, ce n'est pas fini. Et je crains que ce ne soit jamais fini. Jamais, aussi longtemps que je vivrai.
Est-ce à dire que rien n'a pu déraciner de ton cœur le souvenir de cet étranger ?
Il s'était évanoui, mais tout à coup ce fut comme s'il était revenu.
Quand cela s'est-il passé ?
Il y a 3 ans environ, peut-être un peu plus, à l'époque où j'allais devenir mère.
C'était donc cela ? Je commence à comprendre bien des choses.
Tu te trompes, cher. Ce qui s'est passé en moi à ce moment, ah, je crois que personne ne le comprendra jamais.
Quand je pense que depuis 3 ans que nous sommes ici, tu nourris en secret de l'amour pour un autre a été tout le temps l'objet de ton amour, pas moi.
Oh, tu te trompes, je n'aime que toi, toi et personne d'autre.
Comment se fait-il alors que depuis ce temps, tu n'aies plus voulu reprendre notre vie conjugale ?
C'est par peur, oui, par peur de cet étranger. C'est à bord de ce bateau qu'il a pris mon mariage avec un autre. Et c'est à ce moment que j'ai éprouvé pour la première fois...
Cette terreur mystérieuse.
Oui. Quand elle me saisit, ou plutôt un instant après, je le vois vivant devant moi. Il ne me regarde jamais. Il est là, c'est tout.
Comment le vois-tu ?
Tel qu'il était la dernière fois que je l'ai vu.
Il y a 10 ans ?
Oui, à la pointe de Bois-la-Tameur. Ce que je vois le plus distinctement, c'est son épingle de cravate, ornée d'une grosse perle à reflets bleuâtres. On dirait un œil de poisson. Et cet œil a l'air de me regarder.
Dieu du ciel, Elida, tu es plus malade que je ne le pensais. Plus malade que tu ne le crois toi-même.
Oui, oui, sauve-moi si tu peux, car je sens l'étreinte se serrer chaque jour davantage.
Et tu es demeurée 3 ans dans cet état ? Tu as souffert ce tourment secret sans te confier à moi ?
Mais je ne le pouvais pas ! Je ne l'ai pu que tout à l'heure, quand il l'a fallu à tout prix. Il s'agissait de toi. Si je t'avais confié cela, j'aurais dû te confier également ce qui ne peut se dire.
Ce qui ne peut se dire ?
Non, 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 ne m'interroge pas. Je n'ajouterai plus qu'un mot. Dis, Vangel, comment expliques-tu ce mystère, le mystère des yeux de l'enfant ?
Ma chère, ma bien-aimée Elida, je t'assure que c'est pure imagination de la part. Les yeux de l'enfant n'avaient rien de particulier. Il avait les yeux comme tous les autres enfants.
Non, ce n'est pas vrai. Dire que tu n'as jamais vu les yeux de l'enfant changer d'après la couleur du fjord, limpide et lumineux quand le fjord reluisait au soleil, sombre et trouble pendant l'orage. Oh, je l'ai bien vu, moi, ce que tu ne pouvais voir.
Admettons. En eût-il été ainsi, qu'est-ce que cela signifierait ?
J'ai vu d'autres yeux semblables à cela.
Où ? Quand ?
À la pointe de Bois-la-Tameur, il y a 10 ans.
Qu'est-ce à dire ?
L'enfant avait les yeux de cet homme.
Elida !
Maintenant, tu comprends pourquoi je ne veux plus. Je n'ose plus être ta femme, jamais.
Elida ! Elida, ma pauvre, malheureuse Elida !
Le temps que le cœur cesse, c'est une création de Lise Avignon, très librement inspirée du livre « Crime et châtiment » de Dostoïevski. La mise en scène qu'elle en fait est sobre, avec peu d'éléments sur scène. On navigue constamment entre 2 personnages qui se révèlent être en fait 2 facettes d'un même personnage et 1/3 qui se contente d'observer. C'est une pièce qui parle de la vie, de la mort et de la rédemption. Tout cela accompagné par de nombreux morceaux musicaux, dont celui que vous entendez. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lise Avignon, membre de l'équipe derrière le spectacle. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors Lise, avant de commencer un petit peu à parler de votre spectacle, Le temps que le cœur cesse, comment vous en êtes arrivée à vouloir le faire ?
Oula, à vouloir le faire. Moi, je suis comédienne, à la base, je suis comédienne, interprète pour d'autres compagnies, voilà, depuis longtemps. Et depuis relativement peu de temps, j'ai commencé à vouloir aussi faire mes propres spectacles, pas seulement interpréter ceux des autres, mais aussi prendre le risque d'être un endroit de porteur de projet, quoi, porteuse de projet. Et du coup, quand j'ai eu fini mon premier spectacle, Ben, j'ai immédiatement pensé que j'avais envie de travailler sur Crime et Châtiment, que je connaissais depuis que j'ai 20 ans.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, justement, de ce spectacle, Le temps que le cœur cesse ?
Alors, c'est une très, très libre et très personnelle adaptation de Crime et Châtiment, donc, de Dostoïevski, d'après la traduction de André Markovitch. Voilà. C'est une adaptation qui s'attache à tout le cheminement de Raskolnikov, le personnage central. Ça s'est vraiment centré que sur cette figure-là qui est centrale, mais après chez Dostoïevski il y a toujours énormément de personnages autour. Là vraiment je me suis attachée à le texte du spectacle, en fait c'est toutes les paroles qu'il dit ou qu'il pense. C'est tout un cheminement dans sa tête, en fait.
C'est un cheminement de pensée,
c'est ça.
D'accord. Combien de temps ça vous a pris de création à peu près ?
C'est difficile de répondre à cette question parce qu'on a commencé en 2017. Concrètement, 17, 18, 19, 20, 21, 5 ans. Mais en pratique, ce n'est pas 5 ans plein. Et alors là, je suis incapable de chiffrer, en fait. Je peux dire... que depuis 2020-21, on y est pas mal, que là, ça fait deux mois qu'on y est à temps plein, que début 20... Enfin, je sais pas, moi, c'est impossible à chiffrer, en fait. Après, c'est depuis 2017, de façon régulière, entre écriture à la table et répétition, expérimentation au plateau.
Et pourquoi ce roman, Crime et Châtiment ? Pourquoi celui-là en particulier ?
Ça fait vraiment partie des livres qui, pour moi, dès que je l'ai lu, dès la première page, où je devais avoir un peu moins de 20 ans. Et à l'époque, j'étais comédienne apprentie, quoi, élève au conservatoire de théâtre. Et dès que je l'ai lu, je ne l'ai même pas lu, quoi. Dès que j'ai lu les trois premières pages, j'ai commencé à prendre des bouts pour le travailler au théâtre, au conservatoire. Et donc, c'est, pour moi, il y a une espèce d'évidence de Dostoïevski, de la langue de Dostoïevski au théâtre. C'est l'envie de dire ça, et de dire ça en tant que comédienne sur scène, elle est venue instantanément. C'est vraiment un écrivain de l'oralité. Et donc, forcément, en tant que comédien, c'est une langue qu'on a envie de prononcer, en fait, à haute voix, tout de suite. C'est pas que moi, en fait. Il y en a d'autres aussi, comédiens, qui m'ont fait part de cette expérience-là aussi.
D'accord. Ok. Et du coup, cette idée de... Alors, c'est finalement une réécriture ou...
Alors, c'est un endroit un peu hybride entre l'adaptation et la réécriture. J'ai pas changé les mots de Dostoïevski. Je me suis pas... permise ça, à part des minuscules choses. Mais en pratique, il y a eu tellement, tellement de coupes, ça a été tellement radical que, à force de choix, cela s'apparente à une réécriture. Parce que le livre, il fait 1000 pages, le texte du spectacle, il en fait 25. Donc, pour tracer un fil à l'intérieur de ça, à l'intérieur de 1000 pages, pour en tirer 25... ça suppose de tels choix qu'il y a une notion de réécriture. Mais je dirais ça avec beaucoup de prudence, hein, parce que voilà, respect total à l'auteur.
Oui. Hein. Et finalement, l'idée, c'était de montrer une facette en particulier du livre.
Alors, comment dire ça ? Montrer une facette. En fait, je ne me suis pas dit « je vais montrer un truc du livre ». Je me suis dit « je vais juste travailler avec, essayer d'aller le plus loin possible dans la retranscription de ce que ça m'a fait, ce que je reçois, moi. » Et pour mettre ça sur scène, besoin d'une condensation et donc de choix un peu radicaux. J'ai juste essayé d'aller le plus loin possible dans ce que j'avais reçu, moi, et en essayant de pas m'éparpiller à tout retranscrire, parce que impossible, quoi.
Oui, ça fait beaucoup trop. Donc l'idée, c'était de transmettre un ressenti. en fait.
Oui.
Plus. Ouais.
Oui, un ressenti que j'ai sans cesse... Enfin, j'ai navigué sans cesse entre ben, moi, qu'est-ce que ça me faisait pour aller dans mes sensations, dans ma perception et dans ben, toutes les pensées que ça m'évoquait d'avoir lu ça. Voilà, pour créer le spectacle. Et j'ai navigué entre mes trucs à moi, enfin, ma réception et le livre, en fait, sans arrêt. J'ai eu, je ne sais pas combien de fois je l'ai relu. Je suis sans arrêt revenu au bouquin. Parce qu'à chaque fois que je butais sur quelque chose dans la mise en scène, je me disais, mais peut-être j'ai loupé un truc du livre. Ah, peut-être qu'il me manque quelque chose. Je ne sais pas combien de fois j'ai réécrit des passages parce que le plateau me disait, ah tiens, si ça ne fonctionne pas tout à fait, ah tiens, il y a quelque chose qui ne me semble pas tout à fait cohérent, j'ai peut-être loupé un truc. Et effectivement, le plateau m'a amené une compréhension beaucoup plus profonde de l'œuvre, en fait. Ouais. Et l'œuvre a sans cesse permis d'approfondir la proposition de mise en scène.
D'accord. Et que c'était quoi ce ressenti ?
Il y a eu plusieurs choses. La première chose au tout départ, c'était le fait d'être frappé par la langue de Dostoïevski. Le fait que quelqu'un comme ça ait réussi à mettre sur le papier, en mots, ce qui se passe au moment où la pensée tente de se formuler dans la tête. Ouais. Y compris les moments où ça échoue et où on essaie quand même de dire. Donc voilà, pour moi, ça m'a énormément touchée. Globalement, souvent, chez un écrivain, ça me touche beaucoup quand il y a quelque chose de... la mise en mots d'un indicible. Voilà, comme si... presque il arrive à parler l'échec même du fait de parler. Enfin voilà, un truc comme ça, ce paradoxe-là me touche beaucoup. Et cette langue-là, hyper imparfaite, répétitive, obsessionnelle, mais en même temps, du coup, très drôle, très vive, très rapide. Ça me parlait, j'avais l'impression que je connaissais ça déjà, moi, dans ma propre tête. Donc il y a eu ça, puis après, la lumière que j'ai trouvée chez cet auteur... il y a ce côté, les tréfonds de l'âme humaine, ça a cette réputation-là. Alors oui, bien sûr, et puis c'est vrai que c'est l'histoire d'un assassin. Voilà, enfin en tout cas, quelqu'un qui a tué, qui se débrouille de ça. Donc oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre du sombre. Et à l'intérieur de ça, pourtant, il y a une lumière incroyable, quelque chose de l'ordre du pardon, de l'amour, un chemin de guérison et tout, qui fait qu'il... Il laisse pas ses personnages Dostoïevski, il laisse pas l'humanité juste aux prises avec sa propre noirceur et son propre dépouillement et son propre échec. Non, il y a quelque chose de l'ordre de sauver, éclairer une lumière. Ça, pour moi, c'était important, ça.
C'était cette lumière que vous avez voulu transmettre ?
Oui. Oui. À la fois ce qui rend malade, quelque chose de l'ordre de l'angoisse, quelque chose de l'ordre de la maladie de l'âme, pour pouvoir montrer la guérison, enfin un chemin vers la guérison. Ouais.
D'accord.
Mais du coup, pas hésiter à aller vers la noirceur, la violence, bah, pour pouvoir montrer le chemin qu'il y a à faire. Et tous les dangers, tous les risques qu'il y a pour quand même se régénérer soi-même, quoi.
C'est un peu une histoire de résilience, en fait, au final.
J'emploierai pas ce mot-là, mais je parlerai de guérison.
De guérison, hein.
Ouais. Ouais.
Ok.
Avec, en même temps, quelque chose qui n'est pas manichéen. Qui reste impossible à résoudre malgré tout. On est dans un... Dostoïevski, il dépeint aussi une société qui est complètement en crise, qui est complètement... où il y a de la misère est partout. Et cette chose-là, elle n'est pas effacée à la fin. Et voilà, ça pour moi, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée aussi et beaucoup parlé d'aujourd'hui. En fait, la résonance entre la crise à l'intérieur d'un crâne et
la crise en extérieur.
Ouais, exactement.
D'accord. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans le fait de réécrire, justement, de réadapter ce livre ?
Ce qui a été le plus dur, c'était... Oh là là. le passage du monologue au dialogue, en fait. Le fait que ce monologue-là soit en fait, on est sur un travail de double en fait. On est deux comédiennes, enfin on est trois comédiennes au plateau et on est deux en particulier à former une espèce de duo double de cette figure-là de Raskolnikov et qui à des moments marche complètement ensemble et puis au fur et à mesure du spectacle se scinde en deux, se regarde soi-même jusqu'à se mettre à dialoguer. Voilà. Et ça, ce passage-là,
Ouais.
il a été délicat dans l'écriture. Pour moi, je ne savais pas si ça allait fonctionner. En fait, je ne savais pas si ce pari-là, ouais, il serait juste, il serait acceptable dans le spectacle, quoi. Et en fait, ben ça va, je suis
Ça va,
contente.
t'es content du résultat.
Ouais.
D'accord, alors on va parler un petit peu de la mise en scène. Pourquoi ce décor? On a que deux bancs, une croix et un mur sur roulette, un pan de mur. Pourquoi ce décor-là?
Ben, déjà pour moi, c'est pas un décor, en fait, c'est des éléments, on va dire, juste des éléments qui sont juste ce qu'ils sont, très, très simples, mais que j'ai choisi en fonction de moi, ce que ça m'évoquait, le livre, l'univers du livre, mais très simple, mais qu'on peut bouger sans cesse, de façon à ce que, à faire fonctionner. À changer le vide, l'espace entre les choses. Pour moi, les éléments de décor, de scénographie, ça sert plutôt à faire fonctionner l'espace vide de façon différente au long de la pièce. Donc, en fait, quelque chose de hyper simple et pouvant être mobile parce que. Oui, parce que beaucoup plus envie de faire fonctionner le vide que le plein, en fait.
D'accord.
Ouais, pas du tout l'envie d'un décor figé, pas du tout l'envie de remplir la scène.
Ouais.
Mais moi, ce qui m'importe, c'est ouais, les espaces vides, ouais, et comment juste mettre un banc en fond de scène ou juste dans le mouvement de le déplacer partout sur la scène, ça crée un espace qui
Ouais.
donne des sensations différentes, quoi. Qu'est-ce que c'est un mur qui se rapproche très très doucement de l'avant-scène, ça donne une sensation d'espace, mais qui est vachement liée à plus un espace-temps, un espace en mouvement, plutôt qu'un décor qui représente un truc. Je ne voulais pas du tout
Ouais.
représenter quoi que ce soit.
D'accord.
Et plus avoir des images un peu comme en rêve, en fait. Un truc très mouvant. Bon, ça, c'est vraiment ma patte, quoi.
OK. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà dans d'autres spectacles?
Oui, alors ça, c'est comme mon deuxième spectacle,
OK.
mais dans mon premier, c'était ça aussi.
Donc l'idée, c'est d'avoir un espace maniable, en fait. Et alors vous dites que vous préférez faire parler plus le vide que les aimants, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous entendez par là?
Un espace, il existe par ce qui est rempli, les chaises, les tables, mais il existe beaucoup aussi par ce qui n'est pas rempli. On voit bien quand on est dans un endroit, je sais pas, un grenier tout bas de plafond, c'est pas du tout, même avec rien dedans, c'est pas du tout le même espace que une grande salle avec des plafonds très hauts ou je sais pas, un cloître et tout ça. Rien que le fait de modifier l'espace vide, le vide entre les choses, entre les objets, entre les corps et tout, on voit bien quand on est près de quelqu'un, c'est pas la même sensation, c'est pas le même espace que quand on est très loin de quelqu'un. Et avec le public, ça marche pas. Ça marche aussi quand on est très près du public, c'est pas pareil quand on est très loin de lui. Et le mouvement, pareil. Si on bouge partout sur scène, ça crée pas la même sensation d'espace. On va pas voir les mêmes images. Que si on est sur un seul endroit sans bouger pendant un quart d'heure. Et donc voilà, c'est ça pour moi, cette histoire-là de vide, en fait.
D'accord, c'est plus le vide en fait qui importe que les décors.
Ouais, et
Ouais,
le fait
et
de le
que les éléments.
modifier, et le fait de pouvoir le modifier, en fait.
Ok. Alors pourquoi ces éléments-là?
Alors ça s'est choisi de manière très très intuitive, comme très souvent dans les choix que je fais. Les bancs, c'était sûr depuis le début. Et je peux pas expliquer pourquoi. Je savais que je voulais deux bancs. Mmh. Je voulais deux bancs massifs, des trucs lourds. J'ai mis du temps à les chercher, à regarder plein de bancs. Et puis, je me suis peu à peu formé une image de ce que je voulais, en termes pratiques, quoi, déjà, des choses qui peuvent être déplacées par une seule personne, mais en même temps assez lourdes et qui ouais. puissent évoquer, finalement, quelque chose comme des bancs d'une vieille église de campagne, ou des bancs de taverne, ou j'en sais rien. Enfin, en tout cas, un truc un peu lourd, simple et ouais, populaire, quoi. Petit à petit, je me suis formé un peu une sensation de, en regardant les bancs, je disais, ah, trop gros, trop riche, trop clair, trop je sais pas quoi. Et puis, je suis tombée sur cela, je me suis dit, tiens, ça s'essaye. Et puis, ça marchait. Ce que ça évoquait, ce que ça me faisait de les voir sur le plateau. Ouais, deux bancs sur lesquels on peut s'allonger, qui peuvent être comme des lits, des paillasses, mais aussi presque deux cercueils. Ça m'a je me suis dit ok, ça me va, ça résonne avec les sensations, enfin l'univers vers lequel je suis en train d'avancer. Le mur est venu plus tard. Je pense que c'est plein de mots du texte qui petit à petit font leur chemin et descendent en moi, et après il y a des images qui se forment, et après ça arrive à quelque chose, à des choix concrets. Et je pense que le mur, c'est à force de lire le livre, je crois qu'il est question sans cesse de Saint-Pétersbourg en travaux, la chaux partout, il y a des ouvriers, il y a des appartements qui sont refaits, qui sont repeints, il y a de la poussière de chaux, tout ça. Il parle des murs qui s'effritent, il y a cette espèce de pauvreté visible en fait. Et petit à petit, j'ai eu envie d'un mur pauvre, enfin en tout cas de voir un mur qui pourrait s'effriter, de poussière de plâtre, de choses comme ça. Et je me suis mise à construire ce truc. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est pas grave s'il s'effrite pas. Ça va, il est suffisamment pauvre comme ça. Mais ça serait bien qu'il bouge. Donc voilà, on a mis des roulettes.
En fait, l'idée, c'est un peu de donner corps au livre.
Ouais, quelque chose comme ça.
Les éléments.
Oui. Et oui. À mon rêve du livre, quoi, tout ça
ouais,
reste
un ressenti.
Ouais, tout ça reste très perso. J'ai essayé de creuser le plus profondément en moi, en me disant, si je vais le plus profondément en moi, il y a des gens à qui ça parlera pas, mais il y a des chances pour qu'il y ait des gens à qui ça parle, mais vraiment.
Oui, parce que c'est très personnel, en fait, au final, comme interprétation. Moi, il y a un élément, justement, décor dont on n'a pas parlé, c'est une croix. Est-ce que la religion, elle a une place dans ce spectacle ?
Alors, ça a été aussi quelque chose de très compliqué. la religion chez Dostoïevski, c'est hyper important. Voilà, la chrétienté, la figure, enfin, la question de la croix, enfin, la Bible, tout ça, c'est ultra important pour lui, c'est ultra important dans ce roman. Il y a une scène centrale du roman, c'est quand à un moment donné il est raconté la résurrection, la scène de le récit de la résurrection de Lazare. Voilà, ce récit là est à un endroit mais central du bouquin, on ne peut pas passer outre. Voilà, je parlais de guérison tout à l'heure, ça c'est mon mot, mais en vrai c'est aussi quelque chose en rapport avec un chemin de croix, une résurrection, enfin quelque chose comme ça, quoi. Et puis, c'est aussi le rapport à la mort, le rapport aux morts, à la personne qu'on a tuée, au risque de se tuer soi-même, aux gens qui sont morts, enfin voilà, plein de choses comme ça, tout un truc, rapport à la mort. Et bah, c'est juste que j'étais en vacances, et puis il y avait un petit cimetière, et puis j'ai vu qu'il y avait une croix qui avait été remplacée, et puis qui était là, une petite vieille croix dans un fond du cimetière. Et puis, comme j'étais dans cette adaptation-là, que j'étais occupée par ça, que j'avais ça dans la tête, j'ai vu cette croix, et puis je me suis dit, tiens, je me prenais la tête avec moi qui ne suis pas... je ne suis pas croyante, quoi. Enfin, je n'ai pas de religion. Je ne crois pas en Dieu. Je me prenais la tête avec ça, avec... pourtant, ce livre me touche immensément, et la question de croire Ben oui, ça me touche aussi. Et je me disais comment je peux faire pour... Voilà, c'est une dimension que je ne peux pas éluder chez Dostoïevski. Et en même temps, je ne veux pas faire l'apologie de la religion. Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Et donc, je me prenais la tête sur ce truc-là. Puis je vois cette vieille croix dans un fond du cimetière qui était laissée à l'abandon. Mmh. Je la trouve belle. Je me dis, tiens, j'ai toujours bien aimé le silence des cimetières, le silence peuplé des cimetières, ce truc-là. Un endroit de recueillement, la place pour les morts, tout ça, la mémoire et tout. Et puis je me suis dit, tiens, peut-être qu'on peut l'essayer, qu'il y ait ce signe-là religieux dans un coin, mais qui est aussi le signe de, ben, dans n'importe quelle ville et village français, il y a des croix, il y a des cimetières avec des croix. Et il y a quelque chose comme l'évocation d'un cimetière. Et qui va avec, bah, dans notre culture, la croix du Christ, quoi. Et puis ça m'a plu finalement, ça m'a aussi rappelé, mon propre univers en fait, les vampires, tout ça, les trucs plus ados, mais qui sont aussi hantés par cette question-là de la mort, de la résurrection, de tout, mais un endroit plus adolescent, enfin mon adolescence à moi.
D'accord.
Et voilà. Et ça m'a plu sur scène, je me suis dit oui, ça me va. Ça, ce signe-là, il est partout dans le texte et ça me va qu'il soit là.
D'accord. C'est très beau, ça coupe le souffle. Alors, le temps passe vite, c'est déjà l'heure de notre première pause musicale. Vous avez choisi. Alors, excusez-moi d'avance pour ma prononciation.
Bon courage.
Ghilardenchi, pourquoi ce choix?
Oui, alors. Il y a pas mal de musique tirée de c'est un truc que je sais pas comment j'ai trouvé, c'est des extraits de musique d'instruments mécaniques. Il y a des trucs, là c'est du piano mécanique je crois, il y a des trucs de boîte à musique dans le spectacle, il y en a plein, des trucs de boîte à musique, des trucs de piano mécanique, des trucs de bout d'orgue de Barbarie, de trucs de vinyle mal enregistré, de trucs hyper populaires. Parce que c'est la présence de la musique populaire et avec les moyens populaires pour donner de la musique dans les rues. Et là, sans arrêt dans le bouquin, et c'est une chose qui me parle énormément.
Très bien, on écoute. Ah oui, alors c'était très très court, merci beaucoup pour ce choix.
Oui.
Alors, on parlait un petit peu des éléments dans le décor, maintenant on va parler d'autre chose, on va parler de la musique. Mm-hmm. Pourquoi de la musique?
Je pense que je comprends mieux la musique que le théâtre. Je pense que j'arrive à faire des choses en théâtre... plus par je pense que ce qui me guide avant tout c'est tout ce qui est c'est ma sensibilité musicale et rythmique. Quand j'étais enfant, j'en ai fait beaucoup de la musique, mais je sais pas pourquoi j'ai toujours rêvé de faire du théâtre, et c'est du théâtre que j'ai choisi de faire, alors que je pense que je suis meilleure en musique, enfin qu'à la base j'étais plus douée en musique.
Vous faites de la musique? Vous en avez fait?
J'en ai fait, oui, beaucoup, ouais, quand j'étais enfant et ado, et du coup c'est aussi lié à mon appréhension du texte et de la langue, où j'entends et je ressens d'abord un rythme phrasé, quelque chose comme ça, très très organique, comme une pulsation, et un son. Et donc, c'est très naturel pour moi de chercher qu'est-ce que c'est la musicalité de la parole. Et donc, du coup, de travailler aussi avec des moments où ça va jusqu'à, on se tait, et puis ça va jusqu'à de la musique. Et puis, il y a beaucoup de musique dans le roman aussi. Mm-hmm. Beaucoup de, des choses qui sont citées, des chansons, des sons. Il y a beaucoup, beaucoup de sons chez Dostoïevski, et je crois chez les Russes, globalement, en fait. Le visuel et le sonore cohabitent beaucoup. Ça va dans les choses qui sont, les descriptions et tout. C'est pas comme dans un roman classique français où c'est souvent plus ordonné et très très, où le visuel, le sonore sont très ordonnés. Là, en tout cas, chez Dostoïevski, et je pense que oui, que c'est très russe ça. C'est très facile dans une description de dire ce qu'on voit et ce qu'on entend quasiment en même temps. Voilà. Et moi, c'est un truc qui me parle. Et oui, effectivement, il y a énormément de musique dans le spectacle. Et ça fait partie aussi. C'était là dans mon premier spectacle aussi.
Est-ce qu'il y a une volonté de dire quelque chose par la musique ?
Oui, quand on ne peut plus parler, on chante. Et puis, avant d'arriver à parler, des fois, il y a la musique remplit quelque chose, et puis par la lame, en fait, directement. C'est une... Oui, ça parle, ça dit, et ça met le sens un peu plus... Enfin, le sens, l'intellect un peu plus au repos. Et du coup, ça parle au sensible. Voilà.
Et pourquoi ces morceaux-là
Quand j'écrivais, je faisais mes choix d'adaptation, ce qui m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Il y avait des fois des morceaux qui font partie de mon univers que j'avais envie d'écouter. Parce que ça allait avec l'ambiance du passage et je les écoutais pour m'aider quoi, à comprendre, à entendre, à percevoir quelque chose. Et ces morceaux-là, parfois sont restés, parfois on était juste là. Mais donc c'est un mélange entre mon univers et mon univers tel qu'il est revenu en se mélangeant au texte. Puis après, il y a d'autres choses que j'ai cherchées, vraiment. Parce que des fois, Dostoïevski cite telle chanson, donc je suis allée la chercher, voir qu'est-ce qu'elle était. Et puis des moments où je souhaitais que tel texte soit dit sur une musique et j'entendais un type de musique et je suis allée écouter pas mal de trucs jusqu'à ce que j'ai le son qui fasse tilt quoi.
Et c'est donc du coup c'est pareil, le choix de ces morceaux c'était aussi du ressenti.
Ouais.
D'accord.
Qui après au final doit se vérifier en fait aussi avec le sens des choses quoi. Enfin il y a oui c'est un mélange d'intuition, mais après ça doit se vérifier dans qu'est-ce qui se passe au plateau et puis aussi au niveau de quel sens ça se dégage de ça. Et puis après il y a des choses très un peu comme un truc très artisanal de là il y a trop de musique, il faut en enlever ou il faut laisser la place au silence. Voilà.
Faut s'adapter, quoi.
Oui.
Oui. Alors, il y a une scène qui est assez marquante. C'est une scène où les personnages déplacent les éléments du décor avec de la musique et une lumière rouge.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette lumière rouge ? Pourquoi une lumière de cette couleur ?
Ah, il faudrait demander ça à Mathilde Montrignac, qui a fait la créa lumière. Du coup, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai pas vu, puisque je suis dedans, là. Cette scène, c'est une scène de cauchemar, et qui est pas dite avec des mots, et pareil, on essaie de traiter ça par rentrer dans ce que ça fait de l'intérieur un cauchemar. Et ce cauchemar-là, en fait, notamment, qui arrive à la fin du premier tome, et cette chose-là de ne plus savoir sur quoi s'appuyer, que le monde entier se renverse autour de soi. Donc on a travaillé ça spatialement, et Mathilde, à la lumière, a fait plusieurs essais. Et Et c'est vraiment le moment où je pense qu'il a à vivre, le personnage, c'est peut-être un des moments le pire, quoi, où il est au plus, particulièrement au fond de sa solitude, de son horreur, de son isolement. Et je pense que le rouge est venu parce que c'est, dans le sens, le côté un peu... c'est l'enfer, quoi.
Ouais. C'est l'enfer. Alors, au niveau des costumes, du coup, tous les personnages ont le même costume. Pourquoi ce costume ?
Alors, non, pas tout à fait tous, puisqu'on est deux.
Oui, c'est vrai qu'il y en a en manteau. Oui, ouais, le troisième est en manteau.
Bah, en tout cas, l'espèce de double, là, le double Raskolnikov. Oui, alors, alors là, ça remonte il y a longtemps, ce costume-là. Je voulais qu'on soit, puisqu'on est des femmes, et on incarne, en fait, la figure d'un jeune homme, qui en plus est une figure phare de la littérature mondiale, voilà. Et je voulais qu'on soit en sous-vêtements de mec, un peu pauvre, un peu... j'avais cette image-là, de façon... Je voulais que ça soit des espèces de pauvres sous-vêtements de mec blancs. Je voulais qu'on soit très blanchi, pâle, et donc du coup avec un caleçon blanc de mec et un Marcel, des Marcel que j'ai récupéré de mon père. Voilà, et c'était cette image-là, ouais. Donc déjà quelque chose qui pour moi évoque, ouais, vient de trucs de mec, parce qu'on joue un rôle de d'homme, quoi. Qui est quelque chose qui évoque le dénuement, le dépouillement, la pauvreté, même vestimentaire, et sur lequel on rajoute un pauvre vague manteau effiloché, mais auquel on a coupé les manches. Bon, là, c'est vraiment des choix esthétiques. Ouais. Je me suis dit, ouais, il faut une veste. Mais vu ça, au niveau des lignes, des touches, de tout, j'ai pris des manteaux un peu forme d'homme et je les ai coupés. J'ai coupé les manches, j'ai coupé à la taille. Et puis, je me suis dit, j'ai regardé... J'ai reposé un peu, je fais des retouches, je me dis ça va.
D'accord. Alors il y a aussi autre chose qui est un peu marquant aussi dans la mise en scène, c'est l'eau. Il y a un grand baril d'eau et vous jouez beaucoup avec l'eau, même quitte à vous éclabousser et à en répartir beaucoup sur la scène. Pourquoi de l'eau ? D'où ça vient ce choix ?
C'est pour une très très longue scène en fait qui est. C'est une très très longue scène qui est très longue dans le roman aussi, qui est dans le tome 2 du roman. Et c'est la scène où il va, à partir de là, il va faire vraiment un chemin pour aller se dénoncer et accepter son châtiment, en fait. Et c'est grâce à ça qu'il va être sauvé, finalement, qu'il ne va pas s'enfoncer dans d'autres crimes ou se suicider, lui, ou tout ça. Et moi, je voulais jouer sur l'ambiguïté qu'il y a entre... c'est tellement dur d'avouer qu'il a tué. Et j'avais cette image-là de... quand on veut faire avouer à quelqu'un dans les scènes de torture, on lui plonge la tête dans l'eau comme dans une torture et on lui relève, on dit « Vas-y, qu'est-ce que t'as à dire ? Qu'est-ce que t'as à dire ?» Et j'avais cette image-là de faire avouer en plongeant la tête dans l'eau. Et en même temps, l'ambiguïté avec la douceur, en fait, le fait de laver. Je me suis rendu compte bien plus tard, une semaine avant la création, on s'est rendu compte dans l'équipe, quoi, que c'était une image de baptême aussi, que là aussi, il y avait une espèce d'image religieuse, mais auquel je n'avais pas du tout pensé, parce que je n'ai pas cette culture-là, moi. Mais en tout cas, il y avait cette chose-là de, pour moi, l'eau, c'est un élément qui peut être très, très doux et qui peut calmer, qui peut laver, qui peut... Et puis, ça me rappelle aussi des souvenirs d'enfance, de quand c'est tes parents qui vont te laver les cheveux quand t'as 3 ans, des trucs comme ça, quoi. Et du coup, j'avais cette image-là de choses très douces, enfantines, et en même temps, une chose en rapport avec, oui, l'aveu, la torture, et la peur que ça peut faire de... la noyade, quoi, tout ça. Et c'est venu, l'eau, en fait, l'idée de ça, c'est venu d'une phrase du bouquin qui est, à la fin de cette scène, c'est pas dit dans le spectacle, mais dans le bouquin, c'est dit qu'il gise là comme après une tempête, comme triste et tué. Ça, c'est frappant. Dostoïevski dit ça, il gise là comme après une tempête, comme jetée sur une rive triste et tuée. Et du coup, je les voyais, ces personnages-là, trempés, en fait, comme après un naufrage. Mm-hmm. Et du coup, voilà, l'eau.
Du coup, l'eau. Ouais, donc ça évoque un petit peu toutes ces choses-là, le naufrage, la vie et la mort aussi, un petit peu.
Oui, le... Bah, le... Ouais, le truc de l'aveu, mais aussi de la douceur, quoi. Laver.
Le fait de laver le crime.
Oui, laver le crime. Ouais, se laver soi-même.
Alors, il y a une dernière question que je voulais vous poser pour la mise en scène. Vous sortez un moment de scène et vous revenez, enfin, les personnages reviennent ensanglantés. Du coup, c'est du faux sang. J'imagine, c'est quoi?
Oui, c'est du faux sang. C'est... Bon, c'est du faux sang avec de la maïzena et du colorant alimentaire.
Et,
oui.
Et pourquoi, du coup, ce choix-là?
Bah, parce que il va... ce personnage-là, donc Raskolnikov, ce jeune homme-là, il décide, et puis ça se fait très vite en fait, il décide d'aller tuer une vieille usurière pour lui prendre son argent. Les motivations sont complexes et il ne les comprend pas entièrement lui-même. Mais il décide de faire ça et il le fait. Il va tuer. Ça, va très enfin, ça se passe assez vite dans le bouquin. Et depuis, c'était sûr pour moi que ce n'était pas possible, que c'était de montrer, enfin, que je ne voulais pas, que je, voilà, pour moi, ce n'était pas possible de montrer l'assassinat sur scène. Dans une autre mise en scène, ce serait possible, mais pas dans celle-ci. C'est hyper resserré sur juste ce qui se passe dans la tête et tout. Et en même temps, oui, il y a, ça commence, il a pas tué, et puis après, paf, il tue, et puis après, il a tué. Et il reste encore, je sais pas, les trois quarts du spectacle, quoi. Et donc il y a une rupture, une fracture énorme, quoi. Forcément. Enfin, je sais pas, j'ai jamais tué quelqu'un, mais j'imagine qu'il y a un avant et un après quand même. Enfin, en tout cas, dans le livre, il y en a un. Et donc, ça s'est imposé assez facilement, ça, de sortir pendant que le récit du meurtre se ferait en voix off et de revenir avec, avec du sang sur les mains. Et... Voilà.
Mmh. Ouais, c'est finalement, on retourne dans cette idée de donner corps au livre. En fait, parce que finalement, ça rend le. C'est ça qui est un petit peu surprenant, parce qu'on a l'impression que tout est très abstrait, et ce moment où on a les personnages qui arrivent recouverts de sang, c'est très concret. Donc il y a une espèce de basculement entre les pensées du personnage de Raskolnikov et du coup du concret qui.
Ouais.
Cette espèce de.
Oui. Ouais,
je sais pas si c'était volontaire ou si.
Mais ça fait partie des choses que je suis dont je ne me rendais pas compte, en fait, qu'on est en train d'appréhender, puisqu'on est en train de créer le spectacle. Le spectacle est en train de rencontrer le public, donc c'est un nouveau commencement, quoi. C'est la fin de la création, enfin des répétitions, mais c'est un début, un tout début avec le fait de rencontrer les gens, on recomprend ce qu'on propose, quoi. Et donc, oui, effectivement, c'est vrai, il y a ça, il y a cette chose-là de espèce de truc hyper concret, hyper réel. On est encore en train d'ajuster, de savoir est-ce qu'on. Au début, mon intention c'était de mettre plein de sang pour partir dans quelque chose de vraiment très rêvé, quoi. Enfin, presque un peu grand guignol et tout ça. Puis en fait, on évolue, on se dit non, il en faut moins que ça. C'est juste du rouge sur les mains, une éclaboussure sur le visage et mais. Ben oui, il est dans sa tête. Il est dans sa tête depuis. Il passe son temps à dormir, à rêver, à se balader dans la ville avec toutes ses pensées. Il est là-dedans. Et puis, paf, il y va. Et zing, il tue deux corps en plus. Et il se retrouve avec deux corps. La matérialité de ça et cette chose-là où il ne peut plus se dire que c'est que dans la tête, quoi. On ne peut plus du tout revenir en arrière après ça. C'est ce vide quoi, entre la pensée et l'action, une fois qu'elle est faite. Voilà. Et c'est ce mystère-là du passage à l'acte. Quoi. Et du fait une fois que quelque chose est fait, ce qui est fait ne peut être défait, comme dirait Lady Macbeth dans Shakespeare.
Et c'était une volonté, justement, d'exprimer ce passage à l'acte-là, de cette manière-là ou...
Oui, si, si, c'était une volonté. Enfin, c'est énorme, l'assassinat, c'est l'endroit, le truc fondateur. Il le fait comme s'il ne l'avait pas fait, et en même temps, c'est ça qui fonde le bouquin. Donc, il fallait qu'il y ait un truc qui crée une rupture. Voilà. Pour moi, on ne pouvait pas passer outre, quoi. C'était dans le fil dramaturgique des choses, ça faisait partie des moments de passage, quoi. Enfin, il y en a plusieurs, il y a des étapes. À celui-là, c'est la fracture, quoi.
D'accord. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu des personnages. Il y en a un qui ne parle pas du tout, qui est là presque comme un spectateur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce personnage-là ?
Oui. Alors ça, c'est le personnage joué par Louise Morel, l'autre comédienne qui est avec moi, qui est dans le double, c'est Anne Violet. Et ensuite, il y a cette troisième figure, effectivement, qui est arrivée très tard dans le spectacle, quoi. Petit à petit, plus on a travaillé ce double-là, pris dans cette tempête-là, à un moment donné, il m'est apparu le besoin d'avoir une figure qui donne une perspective beaucoup plus lointaine, comme une forme une sorte d'ange, en fait. Un accompagnant, quelqu'un qui est là, qui regarde, qui voit tout, qui va pas juger, une présence plutôt bienveillante, mais qui n'est pas sur le même plan de réalité que les autres, mais juste qui est un endroit stable, lointain et d'apaisement, en fait, mais qui est là tout le temps, tout le temps. C'est comme le besoin d'un endroit plus lointain et plus stable dans la tempête, en fait. Voilà, un apaisement, quoi. L'accompagnateur, quoi. Ouais.
On a un peu l'impression, c'est parce qu'il y a trois personnages et il y en a un qui parle très très peu, le deuxième, donc qui est joué par
Anne Violet. Oui.
Anne Violet. Donc il y a beaucoup de mouvements aussi au début. Est-ce que les mouvements ils sont décidés à l'avance ou est-ce qu'il y a une part d'improvisation
dans le parcours dans le parcours de Anne, il y a une part d'improvisation. Après, c'est quand même très, très, très écrit. C'est extrêmement précis.
D'accord.
Et sur certaines séquences, écrit vraiment au millimètre. Et sur d'autres séquences, il y a une part d'improvisation parce que comme c'est extrêmement lié au rythme de la parole, du coup, c'est moi qui parle. Le rythme de la parole, pareil, c'est très écrit, c'est très précis, mais on n'est pas des machines et le moment n'est pas le même, le public n'est pas le même, nous, on n'est pas les mêmes. Et il y a à repasser par le même chemin soir après soir, mais l'instant fait que l'interprétation, elle doit rester vivante et pas figée. Donc, il y a toujours des respirations un peu différentes, des variations. Et donc, forcément, au niveau du rythme du corps et de certains gestes et tout ça, il y a une part d'improvisation, tout comme la part d'improvisation de l'interprète, quoi.
D'accord.
Donc, il y a ce fil-là, ouais.
Ok, d'accord. Quelle est la relation entre ces trois personnages-là ? Parce qu'ils sont tous très différents, on a un peu l'impression que ce sont trois facettes du même personnage, c'était ça un petit peu la volonté, on en parlait un petit peu tout à l'heure.
Pour moi, il y en a un, c'est un double, en fait, c'est vraiment une figure de double. C'est pas trois facettes du même personnage.
Trois facettes, d'accord, c'est deux seulement.
Okay. Pour moi, il y en a deux, c'est le même personnage, c'est un double, c'est un travail de double, alors avec des moments où ça se contredit, des moments où ça va dans le même sens, des moments où ça se relaie, et puis des moments où ça se confronte. Comme un dialogue intérieur, quoi. Des moments où ça se soutient, des moments où ça... Enfin, voilà, tout ça va être... Comme si c'était une espèce de dialogue entre différentes facettes de soi, tout ça. Comme s'il y avait aussi la part un peu visible du personnage, et puis la part plus des mouvements de l'âme, de choses comme ça, de mouvements intérieurs, voilà. Ça, c'est le travail du double de... Anne et moi. Et ensuite, le troisième, c'est, pour moi, c'est un autre plan. C'est vraiment plus la figure une figure d'ange dans le sens comme les anges des ailes du désir de Wim Wenders, le film. Juste la présence du spirituel, en fait. Tout le temps. Un accompagnement, une présence du spirituel, ouais, tout le temps.
Donc, finalement, oui. Ok, donc il y a ce spirituel avec ce personnage et en même temps avec la croix aussi qu'il y a sur le, au niveau des éléments sur le plateau où c'était pas du tout, qu'il y avait aucun lien.
Je peux pas dire qu'il y a aucun lien, tout ça, à force, ça fait un espèce de truc qui fait le spectacle, quoi. Enfin, tout comme la lumière, les musiques, la danse, machin. La croix est beaucoup plus liée à la. Ouais, la présence des morts, du cimetière des morts, d'accord. De la mort, de la chrétienté dans le livre, quoi. Ce personnage-là, d'ange, quoi, c'est, ouais, pour moi, c'est vraiment beaucoup plus une mise en perspective de la. Tu vois, un duo qui est complètement pris dans la tempête, et il y a quand même un endroit d'apaisement qui est tout le temps à côté, quoi.
D'accord. Est-ce que. Alors, il y a un gros travail de diction, j'ai l'impression aussi, de votre part. Vous dites du texte très 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 vite à un moment. Ouais. Ça a été difficile ou pas d'intégrer ça?
La diction, c'est comme, je sais pas, c'est comme quand on travaille la vélocité, quand on est pianiste. Ça fait partie de l'outil du comédien. Ça pour moi c'est là, ça fait partie de mon entraînement de comédienne et qui n'est pas juste pour ce spectacle, le fait de pouvoir être intelligible et en même temps de garder un lien intime, quoi, au fait de parler, même si la voix elle est portée, même si elle est, même s'il y a une obligation d'intelligibilité. Ça c'est l'outil du comédien, quoi. Pour moi, ça c'est un truc que j'ai avec moi, qu'il faut que si je vois que j'ai la voix qui devient un peu pâteuse, je refais 3 exercices de diction. Sinon, j'en ai fait beaucoup à une époque, il y a longtemps, pour d'autres spectacles. Et du coup, il y a, mon instrument, il est entraîné, il est là, il doit être performant. Là, il y a beaucoup de textes. J'ai pas eu. J'ai eu d'autres spectacles les années précédentes où j'avais beaucoup dû travailler la diction et du coup il me restait juste les traces de cet entraînement-là, donc j'ai pas dû travailler plus pour ce spectacle-là.
C'est, d'accord.
Ça c'est vraiment juste dans l'entraînement de l'outil du comédien, qui doit avoir une voix, une élocution, un corps disponible, quoi. Et alors ça c'est c'est tous les jours, quoi.
Oui, ça fait partie du travail du comédien.
Ouais. Ouais, donc ça, je l'avais avec moi. Ce qui a été dur, c'était la mémorisation de certains passages, bizarrement, alors que normalement, la mémoire me pose jamais de problème. Mm-hmm. Mais là, j'avoue que certains passages étaient assez retors à apprendre. Ça m'a pris du temps. Et après, finalement, mon entraînement pour ce spectacle, il est beaucoup plus de l'ordre de la méditation, en fait, puisqu'il faut avoir pour ce parcours-là, mon corps, ma voix, en fait, ils sont entraînés parce que je joue régulièrement pour d'autres, tout. Là, pour ce spectacle-là, je trouve que le parcours est tel qu'il faut avoir un mental super fort, une capacité de disponibilité, de concentration, en fait, un peu. Super fort, quoi. Et donc, du coup, j'ai dû plus exercer mon mental, en fait. La force
mental.
De mon mental. Ouais. Du coup, j'ai médité pas mal.
Pourquoi est-ce que ça requiert une force mentale?
Parce qu'il y a énormément de strates de jeu différentes. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de strates de choses qui doivent être disponibles en soi. Enfin, autant des choses de l'ordre de l'enfance qui doivent être convoquées facilement, d'une très grande fragilité ou d'une capacité d'amour, quoi. Autant des choses, de l'ordre d'une très grande violence, d'une colère. Donc, il faut pouvoir convoquer ça, le maîtriser, jouer avec. Des choses drôles, de l'ordre d'une espèce d'endroit un peu bouffon, un peu limite, un peu blagueur, un peu clou de noir, quoi. Pouvoir jouer avec ça sans se laisser emporter non plus, quelque chose de l'ordre de la pensée aussi, suivre des chemins de pensée qui arrivent jusqu'à des échecs. Et puis c'est un parcours spirituel aussi, physique et spirituelle. Du coup, en fait, ça fait beaucoup, beaucoup de choses à avoir en soi, avec soi. Et puis techniquement, techniquement aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Donc du coup, faut être très centré, quoi. Et donc du coup, tout ça, en fait, je peux pas me mettre en roue libre. Déjà, globalement, j'aime pas trop me mettre en roue libre dans un spectacle. Mais là, ouais, le parcours est particulièrement riche, quoi. Donc il faut arriver à maîtriser, en fait. Bon, ben là, qu'est-ce que j'ouvre? Là, jusqu'à quand? Ah tiens, là, qu'est-ce qui me manque? Sinon, on peut pas rendre justice à cette écriture-là, et ça serait dommage.
Oui, oui. Alors, avant de terminer, je vous propose une deuxième pause musicale. Je vous laisse vous le présenter. Je crois que vous le prononcerez bien mieux que moi.
Je vais pas arriver à le prononcer en russe. J'ai pas du tout russe. Ça, c'est un tango hyper connu. Soleil trompeur, ça veut dire, ou Tom seul ne sait, je ne sais pas. C'est
De Pavel.
Je sais plus. Là, c'est une version de
Mikhailov,
je crois.
Oui.
Ouais, là, c'est la version de Pavel Mikhailov. C'est un truc très, très, très connu, un tango très connu russe.
Allez, on écoute.
В этот час ты признала, что нет любви. Мне немного взгрустнуло, без тоски, без печали. В этот час прозвучали слова твои. Остаемся, я не стану злиться. Виноват и в этом ты и я. Утомленное солнце нежно с морем прощало. В этот час ты признала, что нет любви.
Merci pour ce choix, Lise.
Et oui, voilà, le tango Soleil Trompeur, hyper, hyper connu, qui est présent dans le spectacle à un moment, enfin, pas dans son intégralité, mais il y a deux minutes qui sont présentes dans cette version-là, dans le spectacle, version un peu pourrie, enregistrée sur vinyle et tout, je voulais qu'il y ait le son du vinyle, tout ça, et sur lequel il y a une espèce de danse, de gestes, quoi, de chorégraphie de gestes.
On va... Le temps file, on va essayer d'évoquer quelques dernières choses. En parlant justement de chorégraphie de gestes, est-ce qu'il y a eu un travail chorégraphique par rapport à tous les mouvements, à tout le... oui, tous ces mouvements qui sont faits par Anne Violet?
Alors, tout à fait. Alors, du coup, Anne Violet, elle a, enfin, il y a des séquences, enfin, ses gestes et tout ça, ça a été vraiment ça. Il y a des choses qu'elle a construites toute seule à partir de demandes que je lui ai faites. Tout ce qui est rapport texte-corps, ça s'est beaucoup vu. D'abord juste toutes les deux en répétition. Voilà, du travail par rapport à certains mots du texte juste avec moi, puis après ça s'est beaucoup vu avec Didier Roux qui a fait la direction d'actrice. Et après, au niveau vraiment chorégraphique, il y a plusieurs moments qui ont été écrits, des moments de danse où on est là du coup toutes les deux à danser. Ces moments ont été écrits par Loane Ledin. Donc il y a trois voire quatre moments qui ont été écrits par Loane. Voilà, ça a été une commande que je lui ai faite. Il dit voilà, il y a telle musique, il y a tel espace, c'est telle ambiance, vas-y, écris-moi quelque chose. Et donc il y a le premier moment sur la musique qu'on vient d'entendre qui a été composé à partir plutôt que de parler, à un moment, on a pris des qualités, des adjectifs, des choses associées au corps du personnage dans le passage du roman dans lequel on était. Et Loane, elle a écrit une danse à partir de ces qualités-là associées au corps, le tremblement, la fatigue, la tête qui tourne... plein de choses comme ça qui ont fait après une chorégraphie de gestes. Après, plus tard, il y a ce fameux moment du cauchemar dont on parlait tout à l'heure, où là, qui a été vraiment co-écrit avec Didier Roux et Loane Ledin. Donc après, Loane a beaucoup écrit, voilà, vraiment, ça c'est une chorégraphie d'espace, de mouvement dans l'espace. Et ensuite, dans la deuxième partie du spectacle, il y a toute une danse avec des mouvements un peu d'oiseaux. Je voulais lui demander des danses, des mouvements de corbeau, comme si on avait des ailes de corbeau sur une musique de Nirvana, sur une chanson de Nirvana. Elle nous a écrit vraiment une danse pour actrice, quoi. Et à la toute fin, il y a un tout petit passage de 1 minute qu'elle a écrit aussi, qui est une chorégraphie d'étreinte qui se fait en silence.
D'accord. Alors, avant de terminer, je vous propose un petit portrait chinois de Raskolnikov, le personnage que vous jouez. Alors, si, à votre avis, si il devait être un aliment, qu'est-ce que ce serait ?
Du thé. Dans lequel on a rajouté... Enfin, du vieux thé. Mm-hmm. Du vieux thé qui a trempé depuis des jours dans la théière. Et on rajoute sans arrêt de l'eau bouillante dedans. Mais c'est le vieux thé d'il y a une semaine.
Ah, c'est précis. Si c'était une couleur.
Oh là là. Un noir qui éblouit. Un noir qui éblouit.
Pourquoi un noir qui éblouit ?
Parce qu'il reste pas dans sa noirceur. Parce qu'il y a un éclat. Un éclat parce qu'il y a une lumière comme je sais pas une pierre noire très très noire mais qui renvoie quand même la lumière du soleil quoi.
D'accord. S'il était une fleur.
Oh, il serait une petite fleur blanche pataude avec des espèces de petits traits marrons dessus. Une fleur à moitié effacée d'une vieille tapisserie. en vieux papier.
C'est quelque chose de très vieille.
Une vieille tapisserie sur un mur décrépit. Il lui resterait quand même une petite fleur blanche, pataude.
Si c'était un animal.
Un corbeau-loup.
Un corbeau-loup,
oui. Un mélange entre un loup et un corbeau. Un loup famélique qui erre dans les rues. Et un corbeau qui essaie de s'envoler. Oh non, un cheval. Un vieux cheval. Non, un pauvre cheval. Non, un loup. Un loup famélique qui erre dans les rues. Mais pas un méchant loup.
Alors, deux un petit peu plus difficiles. Si vous deviez le décrire en une scène du spectacle.
La dernière, quand il avance et il glisse lui-même de ses propres bras, mais sans arrêt il se ramasse et il se reprend lui-même dans les bras et il se relève et il recommence à marcher.
Et si c'était une réplique ou une phrase?
Un ivrogne dans la foule, il veut danser mais il tombe toujours.
Merci beaucoup.
Ah non, aussi, il y a aussi on peut encore vivre, la vie existe encore, la vie n'est pas morte.
Ah, ça c'est positif. C'est plus positif déjà. Alors avant de terminer, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Comment est-ce qu'on peut faire pour venir vous voir jouer? Déjà, vous êtes en représentation jusqu'au 13 novembre au Théâtre de Grand Rond à Toulouse.
Oui.
Mais après, il y a des projets?
Là, je vais me reposer, donc du coup, c'est un peu cool pour moi après. C'est vrai que ça a été tellement énorme ce spectacle que du coup puis comme j'ai énormément travaillé ces dernières années, du coup j'ai prévu du vide, en fait j'ai prévu du repos, du calme, donc j'ai pas forcément beaucoup de trucs après. Je peux citer quelques petits trucs. Il y a une soirée au Théâtre du Hangar en décembre.
À Toulouse.
À Toulouse, ouais, je crois que c'est le 10 décembre, en tout cas début décembre, 7 ou le 10, je sais plus. Une soirée un spectacle musique-texte qui s'appelle Tempus Fugit, et on est en trio, moi et les deux musiciens, Isabelle Cirla et Joël Trolonge. Voilà, ça sera début décembre, Tempus Fugit, au Théâtre Le Hangar. Après, on va jouer en juin, je crois, début juin, un nouveau Théâtre du Grand Rond, une mise en scène de Didier Roux, du théâtre, qui travaille aussi sur Le Temps que le cœur s'aide. Mais là, c'est un projet de Didier Roux, La Belle Compagnie, qui est une mise en scène de Topographie de Noël Renaud, qui aura lieu au Grand Rond, début juin. Voilà, ça c'est ce que je sais. Après, sinon, moi j'interviens dans la formation du Théâtre Le Hangar, présence d'acteurs aussi, je suis membre de l'équipe pédagogique. Ouais. Donc on peut venir voir les élèves, alors c'est pas moi ça, mais on peut venir voir les élèves de la formation qui présentent leurs travaux, suivant les différents intervenants au Théâtre Le Hangar, saison 2021. Et après, là, comme ça, je ne peux pas encore dire.
Ah, ça fait déjà pas mal de choses, déjà, je trouve. Donc, c'est affaire à suivre. Comment est-ce qu'on peut suivre votre actualité?
Je pense que le moyen le plus fiable, c'est d'aller sur ma page Facebook Lise Avignon Pro. En général, j'essaie de mettre des infos là-dessus. C'est peut-être le truc.
Peut-être le mieux.
Ouais.
Alors, une dernière question avant de nous laisser. Qu'est-ce que vous préférez dans le théâtre?
Le corps.
Pourquoi le corps?
Parce que c'est une manière de s'appartenir à soi-même, parce que c'est là où il y a le plus profond de sa pensée qui pourra jamais être asservi, possédé. Voilà.
Merci en tout cas. Merci.
Et juste, je voudrais quand même citer les partenaires du...
Avec plaisir.
Du projet, du spectacle Le Temps que le cœur cesse. C'est un spectacle qui a été soutenu par le Théâtre Sorano, par le Théâtre de la Cité, le Théâtre Grand Rond, donc bien sûr, le Théâtre Le Hangar, la Gare aux Artistes à Montréal, le Tracteur à Sainte-Gabelle, la DRAC et la Région Occitanie. Je pense que j'ai fait le tour.
Ça fait beaucoup de partenaires.
Merci à eux.
Merci à eux aussi. Pour, grâce à eux, on a pu avoir votre spectacle. Merci beaucoup, Lise Avignon, d'être venue. Je vous rappelle qu'elle sera en représentation jusqu'au 13 novembre, tous les soirs, au Théâtre du Grand Rond à Toulouse. C'est un spectacle à voir pour les amoureux de Dostoïevski, mais aussi pour ceux qui ont envie d'entendre parler de pardon, de questions de vie, de questions de mort, qu'est-ce qu'un homme. Alors, affaire à suivre, merci beaucoup. Et nous, avant de nous laisser, je vous propose de découvrir l'histoire des sept belles demoiselles. Bonjour et bienvenue dans Raconte-moi. Prenez une couverture, un coussin, un chocolat chaud et laissez-vous porter par l'histoire des sept belles demoiselles. À la fin du 19e siècle, la croyance aux sept belles demoiselles qui savent tout ce qui se fait et tout ce qui se fera est toujours vivace dans le Gers. Jean-François Bladé, qui a collecté ce conte, en témoigne. Dans cette région, la légende reflète la réalité historique, puisque la nouvelle de la défaite de Napoléon à Waterloo ne fut en effet connue des paysans qu'à la fin du mois de juin. Au temps où Napoléon faisait bataille contre tous les rois de la terre, il y avait, au Franda, un jeune homme qui attendait le moment de tirer au sort. Ses parents étaient tristes, bien tristes, et souvent ils lui disaient « Pauvre ami, si tu vas à la guerre, nous avons fini de te voir, tu seras tué comme les autres ». Le jeune homme ne répondait pas, mais nuit et jour, il songeait à son affaire. Un soir, il siffla son chien, prit son fusil, ses munitions et une besace pleine de vivres. Pauvre parent, dit-il, c'est demain qu'on tire au sort à Lectoure. Je ne veux pas aller à la guerre. C'est dit. Je me fais déserteur. Pour longtemps, vous avez fini de me voir. Je vais me cacher je ne sais où. Pauvres parents, ne pleurez pas. Si je puis, je vous manderai de mes nouvelles. Adieu, pauvres parents. Bon courage et bon espoir. Ne pleurez pas. Après la pluie, le soleil. Le déserteur siffla son chien et partit dans la nuit noire. Pendant 7 ans passés, il mena triste vie, traqué par les gendarmes et les garnisaires. Hiver comme été, le pauvre garçon demeurait caché tout le long du jour au plus fourré des grands bois, son fusil chargé sous la main et ne sommeillant que d'un œil, tandis que le chien faisait bonne garde. Ce chien était bon et brave animal, toujours muet comme un poisson, et flairant l'ennemi d'une lieue pour décamper aussitôt par les bons chemins. La nuit, il marchait à 100 pas en avant, quand son maître changeait de pays, quand il quêtait, en passant sur le seuil des métairies, quelques morceaux de pain pour l'amour de Dieu. Ainsi, pendant 7 ans passés, vécut le pauvre déserteur. Plus d'une fois, de braves gens lui avaient dit « Mon ami, Napoléon est à terre, le roi commande la France, c'est fini, retourne chez tes parents. » Le déserteur répondait en hochant la tête « Je me méfie, Napoléon reviendra. » Il disait vrai, Napoléon revint et commanda d'armer les hommes barbiers et les jeunes gens pour faire encore bataille contre tous les rois de la terre. Vraiment, c'était un triste temps. Dans les villes et les campagnes, on ne voyait plus que des vieux, des infirmes, des femmes et des enfants. de la Saint-Jean, le temps était superbe et la lune montait dans le ciel criblé d'étoiles. Tout le long du ruisseau de l'Esquerre, le déserteur cheminait à travers les prés. Il cheminait avec son chien, dressant l'oreille, faisant courir l'œil vers les roches boisées qui dominent le vallon, sur la droite et la route de Saint-Clar. Enfin, le jeune homme s'arrêta près d'un grand lavoir, bordé de vieux saules creux, et regarda les étoiles. Minuit n'était pas loin. Encore une fois, le déserteur dressa l'oreille et fit courir l'œil. Puis, il se blottit contre le plus gros des saules creux, son fusil chargé sous la main, pour ne sommeiller que d'un œil, tandis que le chien faisait bonne garde. Tout à coup, un petit cri monta du fond du grand lavoir. Le déserteur arma son fusil et regarda son chien. La pauvre bête dormait. Mère de Dieu ! Les gendarmes et les garnisaires sont là. Attention, je n'ai qu'un coup à tirer. Puis au galop et gare à mon bon couteau. Maintenant, 7 cris montaient du lavoir. Le chien dormait toujours. Mère de Dieu ! Les gendarmes et les garnisaires sont là. Attention, je n'ai qu'un coup à tirer. Puis au galop et gare à mon bon couteau. Le chien dormait toujours. Mère de Dieu, les gendarmes et les garnisaires sont là. Attention, je n'ai qu'un coup à tirer, puis au galop. Et gare à mon bon couteau. Mais ce n'étaient pas les gendarmes et les garnisaires. C'étaient les 7 belles demoiselles qui savent tout ce qui se fait et tout ce qui se fera. C'étaient les belles demoiselles qui, toute l'année, vivaient cachées au fond de l'eau pour n'en sortir que la nuit de la Saint-Jean et danser dans les prés depuis minuit jusqu'à la pointe de l'aube. Vêtues de robes d'or et d'argent, les 7 belles demoiselles sortirent du grand lavoir et se mirent à danser une ronde autour du vieux saule creux où le déserteur s'était blotti. Les 7 demoiselles chantaient en dansant. Nous sommes les 7 belles demoiselles qui savent tout ce qui se fait et tout ce qui se fera. Il se passe ailleurs force choses que les gens de ce pays sauront bientôt. Napoléon a fini de faire bataille contre tous les rois de la terre. Les ennemis de Napoléon l'ont emmené prisonnier dans une île de la mer, dans l'île de Sainte-Hélène. La paix est faite. À Paris, le roi de France est retourné dans son Louvre. Ainsi, les 7 belles demoiselles chantèrent en dansant leur ronde toute la nuit, depuis minuit jusqu'à la pointe de l'aube. Alors, elles plongèrent au fond du grand lavoir pour vivre toute une autre année, cachées sous l'eau, et n'en sortir qu'à la prochaine nuit de la Saint-Jean. Le déserteur avait tout vu, tout entendu. Il sortit du vieux sol creux, passa son fusil en bandoulière, siffla son chien et retourna tranquillement chez les siens. « Bonjour, chers parents, j'ai fini de souffrir. Cette nuit, en dansant, les 7 belles demoiselles ont chanté force choses que les gens du pays sauront bientôt. Napoléon a fini de faire bataille contre tous les rois de la terre. Les ennemis de Napoléon l'ont emmené prisonnier dans une île de la mer, dans l'île de Sainte-Hélène. La paix est faite. À Paris, le roi de France est retourné dans son Louvre. » On ne tarda pas à savoir que les 7 belles demoiselles avaient chanté vrai. Désormais, le déserteur n'avait plus à craindre les gendarmes et les garnisaires. Il demeura chez ses parents, se maria et vécut longtemps heureux. C'étaient les 7 belles demoiselles que vous pourrez retrouver dans les contes populaires de la Gascogne de Jean-François Bladé. Thank you. Merci à tous de votre écoute. C'était Bord de Scène, votre émission dédiée au théâtre. Vous pourrez la retrouver sur le site Esprit Occitanie. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt pour un nouveau Bord de Scène.